Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'était il y a 50 ans, et pour les Israéliens, le traumatisme reste vif. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la guerre du Kippour.
Vous écoutez la radio militaire de l'armée de défense d'Israël. Le porte-parole de l'armée a annoncé qu'aujourd'hui, autour de 14 heures, les forces syriennes et égyptiennes ont attaqué le Sinaï et les hauteurs du Golan. Tsahal agit contre les agresseurs.
Document d'archives de la radio militaire israélienne, c'était le 6 octobre 1973. Ce jour-là, en plein après-midi, une coalition arabe menée par l'Égypte et la Syrie attaque Israël. La surprise est totale. L'État hébreu est pris de court et l'armée israélienne, réputée invincible, est en déroute. Ses généraux étaient pourtant convaincus que leurs ennemis n'oseraient pas les défier. La guerre de Kippour marque alors un tournant. La population israélienne se met à douter. L'État hébreu est vulnérable. Un traumatisme ravivé 50 ans plus tard par les récentes attaques du Hamas.
Depuis midi, les combats font rage entre Israéliens et Arabes sur la rive orientale du canal de Suez en Égypte et sur les hauteurs du Golan en Syrie. À 1h du matin, heure du Moyen-Orient, les combats se poursuivaient toujours sur les deux fronts. Et jusqu'à maintenant, les deux côtés accusent l'autre d'avoir déclenché les hostilités. Les Égyptiens, pour leur part, ont franchi le canal de Suez en au moins deux endroits et ont fait passer des blindés sur la rive orientale. Les Israéliens semblent avoir contenu la poussée égyptienne et empêché les troupes du Caire de pousser plus loin que leur tête de pont. Du côté syrien, Damas affirme que ses troupes se sont emparées du mont Hermon et les Israéliens reconnaissent que les combats d'une extrême violence se déroulent dans ce secteur. La Jordanie, elle, n'a pas bougé et le front est calme de ce côté-là. Aujourd'hui, les Juifs célébraient leur plus grande fête, le Yom Kippour. Plusieurs heures avant le déclenchement des hostilités, Israël avait décrété la mobilisation de ses armées.
Un extrait du téléjournal tiré de nos archives, c'était il y a 50 ans, le 6 octobre 1973. Alors pour nous parler de la guerre du Kippour, mon invité est Rachad Antonius. Il est spécialiste du Moyen-Orient, professeur titulaire retraité de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, professeur en sociologie. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi 50 ans plus tard, la guerre du Kippour reste comme ça un traumatisme pour la société israélienne? En quoi elle est différente des autres, cette guerre?
Elle est différente sur deux aspects. Un, ce n'est pas Israël qui avait pris l'initiative des hostilités, mais l'Égypte. Dans les autres guerres, c'était toujours Israël. Deux, ça avait pris Israël par surprise, enfin l'establishment militaire et politique par surprise. Et trois, les armées égyptiennes et syriennes avaient pu faire, dans un premier temps, des avancées significatives. Cependant, il faut bien préciser que ces avancées n'étaient pas sur le territoire israélien. Les deux avancées et la guerre, les deux fronts étaient sur des territoires arabes, donc sur le territoire égyptien pour le Sinaï qui était occupé par Israël et sur le territoire des hauteurs du Golan pour la Syrie qui est aussi occupé par Israël. Donc dans les deux cas, ce n'était pas Israël en tant que tel qui était attaqué, mais c'était les territoires occupés par Israël que ces armées tentaient de reprendre. Et là, il faudra aussi préciser que dans les buts politiques de Sadat qui avait pris cette initiative, l'idée n'était pas de reprendre tout le Sinaï, c'était de faire une offensive avec des buts très, très limités, objectifs très limités, de juste établir des têtes de pont, de prendre juste la rive est du canal de Suez, pour ensuite négocier politiquement.
Oui, tout à fait. Mais les généraux égyptiens vont lui reprocher plus tard à Sadat, hein, parce qu'ils auraient pu pousser l'offensive plus loin, mais ça, on va y revenir. Mais bon, c'est une guerre qui s'inscrit dans une logique de conflit hein, qui remonte à la création même de l'État d'Israël, donc deux peuples qui se disputent un même territoire. Jusqu'en 1973, Israël a le dessus, militairement. Alors pourquoi les Égyptiens et les Syriens décident comme ça d'attaquer le 6 octobre 1973 en après-midi?
Pour plusieurs raisons. D'une part, les populations égyptiennes, palestiniennes et arabes en général n'avaient pas avalé la défaite de 1967 et ils reprochaient au gouvernement arabe de ne rien faire. Ça, c'était un élément. L'autre élément, c'est que la situation politique était bloquée. Il n'y avait rien qui se développait. Alors, Sadat était intéressé à faire une paix avec Israël. Mais dans le rapport de force de l'époque, il n'aurait rien obtenu. Donc ce qu'il voulait, c'est d'une part faire une avancée symbolique non pas dans Israël, mais sur le propre territoire égyptien. On a repris quelques kilomètres de notre territoire, ce qui lui aurait donné, d'une part, un levier dans la négociation envers Israël en disant « Regardez, on est capable de faire des choses », et d'autre part, lui donne une légitimité par rapport à son propre peuple et au peuple arabe en disant « Regardez, on n'est pas sans rien faire ». On essaye de reprendre notre territoire.
Oui, celui qui a été donc pris en 1967 lors de la guerre des Six Jours, le plateau du Golan au nord et le Sinaï au sud. Bon, on l'a dit, l'effet de surprise, il est total. Les services secrets israéliens, réputés pourtant parmi les meilleurs au monde, n'ont absolument rien vu venir. Pourquoi ils ont échoué?
Parce que l'armée égyptienne s'est très bien préparée. Ils ont commencé 2 ans plus tôt. Ils ont fait toutes les préparatifs dans le plus grand secret. Et en plus, pour donner le change, quelques semaines avant le déclenchement des hostilités, Sadat a fait circuler la rumeur qu'il était malade et qu'il allait peut-être aller en Europe pour se faire soigner. Alors, rien n'était confirmé, mais c'était des rumeurs. Et donc, avec ces rumeurs, c'est sûr que personne n'aurait soupçonné que l'armée égyptienne allait entreprendre une action d'envergure à un moment donné où le président est malade. Et donc, c'était un des éléments qui ont contribué à donner le change. L'autre élément, c'est que la stratégie militaire elle-même a été vraiment innovatrice. Il y a quand même, dans l'armée égyptienne, un très haut niveau de compétences techniques. Il y a des ingénieurs, à part les médecins, il y a des gens qui, techniquement, sont très avancés en termes de stratégie militaire, mais aussi en termes de génie militaire. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de s'attaquer à une des spécificités de la ligne Barlev. Vous me permettez d'expliquer ce qu'était.
Allez-y, oui.
Alors, pour pouvoir conserver son contrôle sur le Sinaï, Israël avait construit une énorme tranchée qui faisait à peu près toute la longueur du canal en béton, profonde, large. La traversée n'était pas évidente. Comment traverser le canal de Suez? Ils ont développé des systèmes de petites barques, pas des bateaux, des barques, avec des plateformes de bois et de caoutchouc qui étaient mises par-dessus et qui pouvaient être déployées très rapidement et silencieusement parce qu'il n'y avait pas de moteur. Et ensuite, faire traverser l'équipement de l'artillerie, et c'est ça qui a permis, en une journée ou deux, de prendre d'assaut de façon avec succès la ligne Barlev. Le nom Barlev, c'est le nom du général israélien qui avait mis en œuvre cette stratégie et qui, les Israéliens pensaient qu'elle était comme imprenable.
Oui, tout à fait. Disons que les Israéliens ont pêché avec cette confiance dans tout ça. Il y a la préparation militaire, le génie militaire, il y a également l'effet de surprise. Yom Kippour aussi, c'est une fête juive extrêmement importante. Et pour les Israéliens, c'est un immense échec parce qu'ils sont convaincus de la puissance de leur armée et surtout de l'invulnérabilité de leurs services secrets. Et d'ailleurs, la première ministre de l'époque, Golda Meir, devra même démissionner l'année suivante devant les pressions populaires. On va l'écouter nous en parler. L'un des grands remords de sa vie, dira-t-elle, c'était au micro de France Culture quelques années plus tard, en décembre 1977.
The tragedy of the Yom Kippur War was that our military intelligence did not evaluate the information that they had in the right way.
Cette tragédie a une cause, une seule. Nos services secrets et nos états-majors ont mal interprété les renseignements qu'ils avaient en leur possession. Quelques jours avant la guerre, tout le monde, tous, ont crié bien haut qu'il n'y avait aucune menace.
I was never a general, but I had a feeling.
Je n'ai jamais été général, mais j'avais un pressentiment que je ne pouvais m'expliquer. Seul contre tous.
And what I blame myself for is that I should have said, look, okay, you don't think there'll be war, but let's mobilize the army anyhow.
Je me répétais, j'en suis moins certaine que. Et jamais je ne me pardonnerai de ne pas leur avoir dit.
Et le résultat, c'est que, oui, l'armée égyptienne et l'armée syrienne rapidement prennent le dessus. L'armée israélienne s'est retrouvée complètement désorganisée durant les premiers jours. Les Égyptiens, on l'a dit un petit peu plus tôt, ils auraient pu pousser probablement, en tout cas, c'est ce que disaient les généraux égyptiens, ils auraient pu pousser l'offensive plus loin. Or, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi?
Parce que Sadat savait que avec l'effet de surprise, ils pouvaient faire certains gains. Mais dans une guerre plus longue, où l'effet de surprise aurait été dépassé, l'armée israélienne est supérieure en équipement, en argent, en appui de l'étranger, en appui politique, en ravitaillement constant. Ils savaient qu'une guerre de longue haleine, Israël a une supériorité absolue. Mais une guerre courte, rapide de surprise, ils pouvaient faire certaines avancées. Et donc, il avait prévu de n'occuper que 10 ou 15 kilomètres à l'est du canal, juste assez pour pouvoir déclencher un processus politique de négociation et pour dire à Israël, écoutez, on est capable de faire des choses et pour pouvoir défendre auprès de sa propre population le fait qu'il est là pour prendre la défense du territoire égyptien qui était occupé militairement. Il ne faut pas oublier, cette offensive n'a pas eu lieu en Israël, elle a eu lieu sur un territoire égyptien occupé.
Oui, qui était occupé depuis 1967.
Et d'ailleurs, les Égyptiens n'appellent pas ça la guerre du Kippour, ils appellent ça la guerre du 6 octobre. Oui. Les Israéliens appellent ça la guerre du Kippour, les Égyptiens appellent ça le 6 octobre, et en Occident, on a adopté l'appellation israélienne de la chose.
Oui, tout à fait. Il y aura évidemment des pressions internationales, le monde entier surveille ce qui se passe là-bas, et notamment de la part des pays de l'OPEP, hein, qui vont décider de fermer le robinet du pétrole. Ce sera une des conséquences de cette guerre, le choc pétrolier de 1973, qui aura des effets concret chez nous, c'est attribuable à cette guerre-là?
Alors, le choc de 73 a eu des effets chez nous, ici au Canada, en Europe, il a eu des effets mondiaux, et il a eu des effets encore plus dramatiques et je dirais destructeurs dans le monde arabe. C'est que l'Arabie saoudite n'avait pas d'armée, mais ils ont dit, bon, on veut appuyer symboliquement, pas symboliquement, mais économiquement, l'Égypte, donc on va imposer un embargo pour l'envoi du pétrole à tous les pays qui appuient Israël. Et donc ça a fait décupler le prix du pétrole. Il a été vraiment, en quelques semaines, il a été 10 fois plus élevé. Et donc d'un coup, l'Arabie saoudite, qui était une société plutôt traditionnelle, tribale, avec vraiment un clan tribal à sa tête, s'est trouvée du jour au lendemain assise sur une immense fortune. Alors, le centre de gravité politique dans le monde arabe s'est déplacé des régimes dits révolutionnaires, comme Nasser, l'Irak, l'Algérie, la Libye, qui étaient nés des indépendances. Ce centre de gravité s'est déplacé d'eux vers l'Arabie saoudite. Et donc, les vecteurs, les orientations du développement n'étaient plus des orientations de type social-démocrate, démocratique, populaire, mais plus monarchique à fondement religieux. Oui. Et l'Arabie saoudite a pu financer à coût de milliards de dollars la montée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique, avec une version particulière qui est le wahhabisme, qui est une sorte de salafisme, conservatisme religieux littéraliste qui voulait recréer les conditions de vie du prophète là. Et c'est ça qui a été le facteur social dominant dans les sociétés arabes. Oui. Pendant les 30 ans qui ont suivi.
Oui, tout à fait, voir s'est déplacé. Mais c'était, oui, une façon de mettre de la pression, en tout cas, cette décision des pays de l'OPEP, hein, une arme économique. On va écouter à ce sujet le ministre saoudien de l'énergie à l'époque, Ahmed Zaki Yamani. C'était au micro de l'Associated Press en novembre 1973.
I think what we have as an oil weapon is far more greater than what we did. What we did is nothing at all.
Je pense que ce que nous avons comme arme pétrolière est bien plus grand que ce que nous avons fait jusqu'ici. Ce que nous avons fait n'est rien du tout. Je pense qu'au lieu de réduire la production de 20 ou 25 on pourrait aller jusqu'à 80 %. Vous pensez que l'Europe, le Japon et les États-Unis pourraient survivre à ça?
You think Europe or Japan or the United States can survive with this? Maybe the United States, they have their own.
Peut-être que les États-Unis y arriveraient avec leur propre approvisionnement local. Ils sont dans une bien meilleure position que l'Europe et le Japon. Mais je ne sais pas dans quelle mesure l'Europe et le Japon se réuniraient et rejoindraient les Américains dans leurs actions, car toute leur économie s'effondrerait définitivement d'un seul coup. Les Américains pourraient songer à une action militaire, c'est aussi une autre possibilité. Mais alors, ce serait un suicide.
This is also another possibility, but then this is a suicide.
Donc, on l'entend, hein, des pressions de la part des pays de l'OPEP, mais cela dit, sur le terrain, les combats se poursuivent et en l'espace de 2-3 semaines, hein, Tzal, donc l'armée israélienne, reprend le contrôle, finit par encercler l'armée égyptienne. On l'a dit, Sadat le savait, c'est la guerre à long terme, évidemment, ouais. C'était pas possible. L'armée israélienne était plus puissante. Si bien qu'un cessez-le-feu qui est signé donc, le 22 octobre 1973, les combats cessent dès le lendemain. C'est une défaite militaire pour la coalition arabe. Mais l'Égypte et la Syrie ont réussi à laver l'humiliation de 1967. Alors, comment c'est perçu à l'époque dans le reste du monde arabe? Est-ce que c'est perçu comme une défaite ou plutôt comme une avancée?
Comme une semi-défaite, mais comme aussi une semi-avancée. Donc, on est très conscient des deux aspects, de l'aspect avancé de l'Égypte a prouvé qu'elle pouvait faire mal à Israël, qu'elle pouvait surprendre, qu'elle pouvait faire des gains militaires, et qu'il y avait dans l'armée des compétences pour le faire.
Oui.
La défaite était expliquée par le fait que derrière Israël, il y avait tout le monde occidental, en termes d'argent, d'appui, d'armes et tout, et de savoir militaire aussi. Donc, ce n'était pas complètement une défaite. C'était quand même une certaine victoire symbolique, tant et si bien que jusqu'aujourd'hui, le 6 octobre est un jour férié en Égypte qu'il est célébré comme une victoire.
Ah oui.
Donc, c'est effectivement perçu. Écoutez, personne ne s'imaginait qu'on pouvait défier. C'est pas Israël qu'on défiait, c'est le monde occidental entier qu'on défiait à partir de sociétés qui venaient à peine de prendre leur indépendance.
Oui, et qui avaient été humiliées quelques années plus tôt, en 1967. Hein.
Voilà.
Si bien que, en novembre 1977, l'impensable se produit, les deux ennemis d'hier s'engagent pour une paix durable. Le président égyptien, El-Sadat, prononce un discours devant les députés de la Knesset, donc le Parlement israélien, en territoire israélien. On va écouter ce qu'en disait Bernard de Rome à notre télé. C'était lors d'une émission spéciale le 20 novembre 1977.
Eh bien, sans aller jusqu'à parler de clichés tout de même, on peut presque dire que l'inimaginable est devenu hier d'abord une réalité. Le président égyptien, M. Anwar el-Sadat, est en Israël. Et puis deuxièmement, depuis ce matin... jusqu'à quel point peut-on dire que de véritables négociations de paix viennent-elles de commencer, du moins entre Israël et l'Égypte? Reste à savoir si les autres pays arabes qui s'opposaient tellement finalement, la majorité en tout cas, ce que le président Sadat vienne fouler le sol israélien, est-ce que ces pays-là, à la suite de ce discours ce matin de M. Sadat, vont suivre? Maintenant, le président égyptien a parlé ce matin devant la Knesset, le Parlement israélien. Le premier ministre israélien, M. Begin, lui a répondu. Chacun a pu exposer en détail ses positions. Les désaccords sont apparus clairement, mais tout de même, les deux sont animés d'une grande volonté de paix.
Effectivement, paix il y aura l'année suivante avec les accords de Camp David, donc les deux ennemis qui s'entendent et qui font la paix. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Égypte et qu'est-ce que ça veut dire pour Israël?
Alors, pour l'Égypte, d'abord, ça veut dire que cet accord n'était pas impensable. Il était impensable de l'extérieur. Mais Sadat a entrepris cette guerre avec un accord de ce type en tête, surtout poussé par les Américains. Kissinger a joué un rôle assez important dans ce processus. Donc, pour les Égyptiens, ça a signifié d'abord une paix et la possibilité de reprendre le Sinaï, et donc d'ouvrir le canal de Suez et d'avoir les revenus du canal de Suez dont l'Égypte était privée tant qu'Israël était sur la rive est du canal de Suez. Le canal n'était pas fonctionnel.
Oui. Donc, ils ont repris le territoire, malgré la défaite militaire dans les
oui,
accords.
Oui, dans les accords de paix, ils ont repris le territoire, mais en même temps... ils se sont un peu dissociés du reste du monde arabe qui estimait, avec le recul, on peut dire qu'il estimait à tort que c'était une très mauvaise chose parce que ça brisait la solidarité et que les Palestiniens disaient, écoutez, vous allez peut-être gagner votre territoire, mais nous, on ne va rien gagner.
Oui.
Et donc, les Palestiniens avaient refusé de s'embarquer dans le processus. Résultat, la Ligue arabe se retire du Caire, les pays arabes expulsent l'Égypte de la Ligue et, comme je dis, transfèrent le siège de la Ligue arabe du Caire vers Tunis. Pour Israël, c'est une victoire politique énorme parce que ça signifie que l'Égypte, qui est le plus gros pays arabe en termes démographiques et celui qui a l'armée la plus développée et la plus sophistiquée, est mis hors combat. Donc l'Égypte ne fait plus partie des ennemis d'Israël officielle. Et donc, on va pouvoir avoir une politique d'occupation du territoire palestinien qui ne va pas être trop contestée. Elle va être contestée par les Palestiniens et par la Jordanie, mais cette contestation ne va pas être appuyée par une puissance comme l'Égypte.
Oui, et quand le président égyptien se rend sur place devant la Knesset, c'est une reconnaissance de l'existence de l'État israélien aussi.
Mais ça, ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que depuis avant 1977, Arafat avait dit « à mot couvert ». Et on peut expliquer pourquoi c'est à mot couvert. Mais il avait dit « nous, on est prêts à reconnaître Israël, mais on ne veut pas que ce soit une reconnaissance unilatérale. Si on reconnaît Israël, on veut qu'Israël nous reconnaisse. » Donc, tant qu'il n'avait pas de certitude qu'il y allait avoir une reconnaissance en retour, il ne pouvait pas dire ouvertement. Mais l'idée de reconnaître Israël était claire pour l'ensemble des pays arabes. L'idée, c'était de reconnaître Israël dans les frontières de 1949, pas dans les frontières de 1967.
Oui, tout à fait. Et pour les, vous l'avez évoqué, pour les Palestiniens... Ça veut dire quoi, tout ça?
Pour les Palestiniens, c'était une... ils ont vécu ça comme une désolidarisation de l'Égypte de leur cause. Ils ont dit, l'Égypte fait une paix séparée, ça affaiblit énormément le camp arabe, et le camp arabe est très faible sans l'Égypte, alors qu'Israël a l'appui de tout le monde occidental. Israël, ce n'est pas juste un petit pays de quelques millions d'habitants. C'est pour beaucoup de Palestiniens et d'Arabes, c'est une tête de pont pour les puissances occidentales qui ont un allié très fidèle dans la zone pétrolière. C'est comme ça qu'on la voyait et c'est comme ça que même l'Occident le voyait. Ce n'est pas juste un appui de principe à Israël. Il y avait un intérêt commun. Cet appui était très grand. Donc, effectivement, les Palestiniens vivent ça comme une trahison. Ils se sentent abandonnés et ils essayent d'avoir d'autres moyens de faire avancer leur propre projet de paix.
Oui. Avec, bien sûr, ben, on sait où on en est, hein, 50 ans plus tard, au point mort, malheureusement. Mais il y a, ces attaques récentes du Hamas sur Israël, et ça a révélé, ça a ravivé, disons, le traumatisme de la guerre du Kippour pour les Israéliens. Mon invité, je rappelle, le Rachad Antonius, chercheur et professeur de sociologie retraité, spécialiste du Proche-Orient. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, M. Cloutier.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui Histoire. Ici Maxime Coutier, là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Écoutez tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres. Rendez-vous sur Radio-Canada Audio.